Musique du Monde. Laurence Alloa. Musique du Monde sur RFI.
Chez les Shankar, on joue du sitar de père en fille, c'est du grand art. Incarnation du sitar système, héritière directe du sitar hero Ravi Shankar, Anushka Shankar fait de la musique depuis l'âge de 8 ans. À 13 ans, elle accompagnait déjà son père sur scène et adolescente, elle sort un premier album en 98, sage comme une icône du panthéon hindou. Elle restitue ce qu'elle a appris auprès de papa, c'est-à-dire les musiques classiques indiennes hindoustani au nord, carnatique au sud. Mais la trance de Goa passe par là et Anushka Shankar s'éprend très vite de la musique électronique et y voit une manière de s'émanciper de son père et de défolkloriser le sitar. Elle multiplie dès lors les collaborations, Sting, Patti Smith, Buika, Herbie Hancock, Lenny Kravitz, Elton John, Peter Gabriel n'en jetait plus, et plus récemment avec le jeune prodige Jacob Collier. Quelques albums et musique pour le cinéma plus tard, on la retrouve travaillant sur un triptyque. Le chapitre 1 est sorti en 2023, le chapitre 2 sort cette semaine, et ça dit « il fait si sombre avant l'aube ». Musique extatique, électronique, recherche de paysages sonores, sortez les violoncelles, les pianos, les sitars, les konokols, les mbrintangam ou les morsing, tout un instrumentarium qui va se répandre comme une bonne nouvelle dans la session live. Anushka Shankar sur RFI, dans les musiques du monde. Bonsoir.
I'm tuned, so I'm ready for whenever you are. Thank you. Thank you.
Anoushka Shankar sur RFI dans la session live.
La session live. Musique du monde. Sur RFI.
Anoushka Shankar était au sitar, Prasanna Thevarajah au kanjira et Danny Keane au piano. Anoushka Shankar est notre invitée aujourd'hui donc dans cette session live. Elle sera traduite par Claire Simon. Claire, Anoushka, bonsoir.
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 Alors le titre qu'on vient d'entendre s'appelle In the End. In the End, c'est extrait de ce nouvel album. Vous êtes partie dans un triptyque. Il y a un chapter 1, un chapter 2, bientôt un chapter... Enfin bref, il y a un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous pouvez me raconter un peu la démarche de votre triptyque ?
Well, the short answer is I wanted to try something new.
La réponse courte, c'est que je voulais faire quelque chose de nouveau.
The longer answer is that after the pandemic,
plus longue, c'est qu'après la pandémie, j'avais l'impression de ne pas trop m'en sortir. Je voulais faire l'album le plus important, significatif que j'avais jamais fait parce que c'était un moment si important dans le monde. Je ne savais pas comment m'en tirer. Alors pendant des mois, je n'ai rien écrit du tout. Et en fin de compte, je me suis dit non, il faut juste que je me remette à jouer pour m'amuser de façon complètement libre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais sortir des chapitres, trois parties, et juste travailler sur une petite partie à la fois, avec un collaborateur clé, peut-être dans une ville différente, à chaque fois, et que les chapitres se connecteraient ensuite. Mais au début, je ne savais pas où j'allais. Chapitre 1, en isolation, à Berlin, avec Aruj Aftab, et après, les dernières chansons était laissée ouverte pour
and
continuer.
Then,
et ensuite,
in Los Angeles,
chapitre 2 a commencé avec Pete Rayburn à Los Angeles. Et
really
vous avez le résultat. Et j'ai adoré ce parcours pour l'instant. Chapitre 3, on verra.
Vous avez joué à la Philharmonie de Paris cette semaine. Est-ce que la France est un public particulier pour vous ? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ou au moins des anecdotes que vous aurez raconté votre papa, Ravi Shankar, qui a été danseur en France, à Paris, il y a une centaine d'années ?
Je visite ici avec mes enfants pendant mes performances et j'ai été rappelée aussi le tout premier soir ici. Je me sentais très nostalgique. Je voulais tout leur montrer, les emmener à des restaurants français typiques. Et je me suis rendu compte, je leur ai dit, c'est ce que mon père faisait avec moi à chaque fois, parce que lui, il était très nostalgique, il adorait Paris, la France, et chaque fois qu'on venait ici, il voulait me montrer des choses, me raconter des histoires, et tout m'est revenu dès que je suis revenue ici. Donc oui, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent.
En 2005, vous en souvenez pas, mais on s'est rencontrés dans un grand hôtel. Tout le monde faisait la queue pour faire une interview. Il y avait votre papa, Ravi Shankar, qui vous présentait au monde. Il y avait une série de concerts. C'était la transmission. Il présentait Anoushka Shankar au monde pour dire que voici mon héritière par le sang et par la musique. Dans la chambre, on a essayé de parler de ce passé, de ces années 20 à Paris et voir s'il restait encore quelques mots de français. Vous vous souvenez un peu de la langue française, puisque vous avez vécu à Paris ?
Un peu, mais je ne suis pas très courant. Plus l'habitude, mais ça revient un peu.
Et donc, je vais vous demander, Anoushka, si vous avez quelques mots de français en magasin.
Je n'ai pas parlé beaucoup de français, mais je peux comprendre un petit peu, sûrement.
Votre père a eu un chemin particulier. Il a commencé danseur, puis après, il y a eu ce retour en Inde où il est devenu l'élève, le disciple, on pourrait même dire, du pandit Alauddin Khan. Et à cette époque, être le disciple, être un élève d'un grand professeur, c'était toute une aventure. Ça portait d'ailleurs un nom. On habitait chez lui, on vivait avec lui. Il se pouvait que parfois, on ne commence pas par faire de la musique, mais par balayer la cour. Je voudrais vous faire écouter votre papa sur l'apprentissage et ce qu'il en pense.
You know, I think it's a miracle because usually you have in a crossroad.
J'ai de la chance. Parfois dans la vie, on se trouve à un carrefour et on ne sait pas quel chemin prendre. Miracle. Il y a quelqu'un pour vous conseiller. Malheureusement, il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je suis très heureux du chemin que j'ai emprunté. J'ai en fait décidé d'abandonner cette vie confortable et romantique pour une vie plus difficile, plus austère, ce qui était tout à fait nouveau pour moi. J'ai beaucoup souffert au début, mais je suis si heureux d'avoir choisi cette voie, sans l'aide de personne.
Bon, bah, visiblement, Ravi Shankar a éprouvé quelques difficultés. Enfin, son apprentissage du sitar n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été votre professeur. Vous avez commencé le sitar assez tôt, vers l'âge de 8-9 ans. Et à 13 ans, vous commencez à partir en tournée avec lui, ce qui est complètement hallucinant. Quel type de professeur a été le papa?
You know, it's hard for me to describe it because he was my only guru
and my only father. Guru et mon seul père.
I don't know how it may have been different.
Je ne sais pas comment ça aurait pu se passer autrement.
I know my relationship with him was very different.
Mais je sais néanmoins que ma relation à lui était très différente de celle que j'avais avec ma mère, par exemple. Avec ma mère, j'avais une relation beaucoup plus... J'étais beaucoup plus à l'aise, c'était beaucoup plus libre, ce n'était que ma mère. J'avais un amour très profond avec mon père, une grande connexion, mais c'était un peu plus formel et un peu plus... Pas forcément intimidant, mais quelque chose d'impressionnant. Pour moi, c'était mon professeur, donc je l'idéalisais aussi. Mais c'était aussi une relation très profonde. On communiquait à travers la musique et cet amour filial passait par la musique. C'est une relation que je n'ai jamais eue avec qui que ce soit d'autre.
Ce que je trouve absolument étonnant, c'est le rapport entre l'élève et son professeur. En tout cas, il y a quelques années, je ne sais pas si aujourd'hui, dans l'Inde moderne, ça se passe de la même manière. Je me rappelle de l'histoire d'Annapurna Devi, qui était la première épouse de votre papa, qui a eu Hari Prasad Chaurasia comme élève, le joueur de flûte Bansuri. Il a absolument voulu la voir comme professeur, donc je parle d'Annapurna Devi. Elle n'en voulait pas. Elle lui a dit, non, vous avez déjà plus de 10 ans de pratique, vous avez des tas de défauts, je n'ai pas envie de travailler avec vous. Il lui a dit, écoutez, je suis droitier. Pour travailler avec vous, je suis prêt à être gaucher. Et donc, il a réappris la flûte en étant gaucher. Est-ce qu'on est capable de tels sacrifices, d'avoir autant de dévotion pour un maître, pour un gourou?
I think it evolves, but it definitely exists. I see it.
Mais ça existe toujours aujourd'hui. Je le constate toujours. Pas seulement en Inde, en dehors aussi. Il y a une transmission dans la musique, d'autres formes artistiques aussi. Mais c'est vrai que c'est une dynamique qui évolue. La plupart du temps, en y réfléchissant, même si un gourou enseigne à des enfants, il faut s'accommoder des horaires scolaires, les devoirs, d'autres obligations. C'est pas la même chose. Quand on pouvait juste décider de faire 12 heures de musique, un jeudi, et c'est tout. Donc, il faut que ça change pour s'intégrer au monde moderne. Mais je crois que l'essence de tout cela, la nature de la transmission et cette transmission de tradition vivante a aujourd'hui tout son sens. Et ça fait beaucoup aussi pour l'esprit de la personne qui reçoit cette éducation.
Alors, grâce à votre père, le sitar est devenu un instrument international. C'est aussi grâce à George Harrison, avec qui il avait noué des relations assez serrées. George Harrison, que vous appeliez oncle George, et pas que lui. Votre père était proche de Yehudi Menuhin. Et puis John Coltrane, ce qui nous fait dire quand même que la musique indienne arrive à flirter et à se marier à beaucoup d'esthétiques, ce qui est assez génial.
John was a wonderful person. I gave him few lessons. He was coming to me.
John Coltrane était une charmante personne. Il avait prévu de rester 6 semaines à mes côtés pour apprendre des techniques nouvelles, mais il est mort avant. Il était très influencé par la musique indienne, notamment la mienne.
By Indian music, my music especially, and he was trying to bring.
Il essayait toujours d'apporter des idées très lumineuses. Et vous savez, il ne fumait pas, il ne buvait pas d'alcool, il était végétarien. Il lisait Ramakrishna, un type très différent de tous les autres jazzmen que j'avais rencontrés.
Et là, on retrouve un extrait d'Anushka Shankar avec Ravi Shankar sur le raga Anandikalia. Alors, je suis désolée, je coupe ce raga. En général, les ragas durent 3 heures. Là, on en a passé quelques secondes. Really sorry, Anushka Shankar. Vous avez donc sorti Chapter One, ce fameux EP, et vous avez travaillé un peu avec Nils Fram. Alors Nils Fram, c'est un pianiste très étrange, c'est un pianiste allemand, il a son propre label, du reste Anushka Shankar l'a rejoint. Nils Fram, il a un piano arrangé, c'est-à-dire qu'il fait des sons hyper bizarres, et je me demandais ce que vous aviez fait sur votre sitar pour voir le son qu'on a sur les Chapter One et Chapter Two. Vous l'avez trafiqué, vous l'avez arrangé.
That's a good way of asking the question.
Bonne façon de poser cette question. Je ne dirais pas
same,
que c'était le même processus,
mais
un de mes objectifs pendant ces chapitres, en plus de la musique et l'histoire émotionnelle, c'était d'un côté, d'un point de vue technique, de regarder le son de mon instrument, et c'est quelque chose que je fais depuis quelques albums. C'est-à-dire comment retirer le côté exotique de l'instrument. Presque, ou peut-être l'étendre pour qu'il atteigne des zones qu'il n'avait pas atteint avant, qu'on peut faire avec des micros, des enregistrements, de la technique, le mixage. Et le chapitre 1 a tout poussé dans cette direction en créant une infinité et un espace presque infini avec le sitar. J'ai porté ça plus loin avec le chapitre 2, avec certaines chansons, et je suis si fière de comment on a travaillé avec cet instrument. J'ai pu jouer d'une façon que j'avais jamais joué avant. Grâce au son de cet instrument, ça a ouvert un tout nouveau monde pour moi.
Et le public indien aujourd'hui, il sait ce que vous faites avec le sitar?
I mean, in India, we're talking about a population
en Inde,
of
what? On parle d'une population de, je ne sais pas, il y a des auditeurs qui souhaitent l'innovation plus que la tradition et d'autres qui veulent uniquement la tradition avec laquelle on a grandi. Il y a des gens dans le milieu qui aiment les deux. À mon avis, dans mon expérience, j'ai acquis un grand public pour cette approche néoclassique plutôt que le corpus classique, mais je suis aussi ravi qu'il reste un public pour les œuvres très classiques.
Je vous propose d'écouter un extrait de Chapter One avec le titre Daydreaming.
Thank you.
Anushka Shankar a montré dans sa jeunesse sa connaissance et son expertise des musiques classiques indiennes, hindoustani au nord, carnatique au sud. Mais pour s'émanciper du papa et sortir le sitar de son image folklorique, la jeune femme s'est intéressée de très très près à la musique électronique. Une musique qu'elle adore.
I have always liked electronic
music. J'ai toujours aimé l'électro.
It's been a big part of my life.
C'était une grande partie de ma vie en tant qu'auditrice.
And then it's featured on and off on my recordings.
C'est quelque chose que j'ai toujours incorporé à mes enregistrements depuis 2005 même.
Then I stepped away from it for
ensuite, je m'en suis détachée un moment sur mes disques. Depuis Land of Gold, je m'y repenche parce que je crois qu'au cours des 10 dernières années, la façon dont on peut utiliser l'électro en live a beaucoup changé. Il y a 20 ans, en tant que musicienne acoustique, je trouve que c'était un peu limitant de jouer avec des orchestrations qui étaient déjà déclenchées. Je ne pouvais rien faire en direct, c'était un peu étouffant. Mais maintenant, on peut tout créer en direct, en temps réel. Donc, si on me voit en concert, je m'assois pas de façon traditionnelle. Mes pieds sont sur des pédales, je peux déclencher des boucles, des rythmiques, changer le son de mon sitar. Il y a toutes ces technologies aujourd'hui et ça, c'est merveilleux.
Le chapter 1 s'appelle Forever for Now, ça veut dire pour toujours. Le chapitre 2, c'est How Dark Is It Before Dawn. En français, je dirais comme il fait sombre avant l'aube, quelque chose dans ce goût-là. Je vous propose d'écouter un extrait de ce chapitre 2. J'ai choisi Pacifica. Ooh. C'était le titre Pacifica, extrait de ce chapter 2 qui sort cette semaine. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le chapitre 3?
So maybe influenced by the traditional ragas that I grew up with, which are often associated with times of day.
I was very much thinking of times of day. Et je pensais aux heures de la journée au travers de ces chapitres. Le premier, c'était l'après-midi, la tombée du jour. Chapitre 2, de la nuit aux premières lueurs de l'aube. Et pour moi, le troisième, c'était un matin avec un soleil énorme qui se lève peut-être sur la plage à Goa. Un peu plus énergétique et optimiste.
Quand je parlais d'électro, je pensais à la transe de Goa. Elle a vécu quelques expériences intéressante là-bas.
Plus que quelques-unes, je crois que des visites à Goa, ça faisait partie de ma vie à la fin de mon adolescence, début de la vingtaine, ça m'a vraiment influencée. Et oui, aujourd'hui, j'écoute plus spécifiquement de trans Goa, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a vraiment influencée.
Mais la trans Goa, dans l'esprit d'un occidental, c'est très lié à la drogue, sauf erreur. Je me rappelle de ce que disait votre papa, je crois que c'était à l'époque de Monterey où il y avait tous les Jimi Hendrix. Et quand il faisait des concerts, il y avait les gens au premier rang qui s'éclataient, qui fumaient des pétards, et lui ça l'énervait. Au bout d'un moment, il n'a plus eu envie de donner ce genre de concert devant un public pareil. Il a dit non mais moi, ma musique, la drogue, c'est la musique, c'est la musique qui doit vous faire décoller, qui doit vous faire sortir de votre corps, pas la fumette ou autre chose. Alors je ne sais pas, je faisais le lien avec Goa, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Oui, absolument, je crois que pour lui, le fait que
his rise into the superstardom of the 60s.
Le fait qu'il se soit devenu une superstar au cours des années 60, il était connu avant, mais le fait qu'il soit devenu une superstar, ça signifiait que sa musique a été associée à tellement d'autres parties de ce mouvement auquel lui ne voulait pas être associé personnellement. Donc, cette partie du public qui venait pour vivre une expérience un peu droguée, c'était difficile pour lui, parce que pour lui, cette musique était sanctifiée, elle devait être respectée. Et il voulait montrer aux gens justement qu'on peut arriver à cette profondeur de conscience, on peut vraiment s'ouvrir l'esprit à travers la musique et rien d'autre.
On propose d'écouter un extrait d'un album qui est sorti en 2007, c'était avec Karsh Kale. Sting.
Same tie that drew me closer, pushed me far away. I held the hand that lit the dark night, nothing I could say. I was on the outside, I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side, I was sailing towards the light. I made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds.
La question qui fait mal, c'est comme s'il fallait choisir entre tous ses enfants. Avec quel artiste le duo a été le plus intéressant et le plus étonnant pour vous?
You know that's a difficult question, right?
Tu sais que c'est une question très difficile.
There are people that I've looked up to.
Il y a des personnes que j'admirais, comme Sting, Ashankar Mahadevan en Inde, par exemple. Avoir l'opportunité de travailler avec eux, c'était incroyable. Mais il y a aussi des collaborations plus profondes. Alev Lenz, par exemple, qui a coécrit Love Letters avec moi. Ibai est venu chanter dessus. Et donc, c'était vraiment un album centré sur les femmes. C'était très intime. C'était une autre expérience. Plus récemment, je viens de collaborer avec Jacob Collier sur son nouvel album. C'est un tel génie, si jeune, si innovateur. Et son approche fraîche était vraiment amusante. C'est difficile de choisir. Les collaborations, c'est une de mes choses préférées au monde.
Bon, il y a une collaboration qui est très familiale, hein, en dehors de Ravi Shankar. Et puis c'est pas mal quand on va au Grammy sur les tapis rouges. C'est toujours du plus bel effet.
We are here with Anushka Shankar and Norah Jones. How are you guys doing tonight?
We're good. Are you excited to be here? I know it's a big night.
Yeah, happy and excited to be here again. It's always lovely, so this is great.
Hey, I'm Norah Jones, and today I'm playing along with Anushka Shankar.
My sister!
Traces of you linger like a tear. Fresh upon the air, flaming like a rain cloud.
famille qui se réunit sur scène, les Bee Gees, les Jackson 5, et il y a ce qu'on appelle l'harmonie de son. C'est quand les personnes d'une même famille chantent en même temps, le timbre n'est absolument pas le même que si c'était des étrangers. Bon, bah, c'était un clin d'œil, Nora Jones, Anushka Shankar, vous êtes sœur. Qu'est-ce que vous avez tatoué sur l'avant-bras?
This is some handwriting of my father's on my,
c'est, ça, c'est l'écriture de mon père sur l'avant-bras. Ça, c'est le nom de mes enfants. Il y a d'autres choses un peu partout.
Bon, on n'ira pas plus loin. Je sais qu'il y a quelques années, on avait parlé un petit peu d'Afrique parce que RFI émet pour les trois quarts en Afrique de l'Ouest. Et je voulais savoir si vous aviez eu des rapprochements avec ce continent. Je pensais à Trilog Gurtu qui a pas mal œuvré en ce sens, musique indienne, musique africaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a peut-être intéressé à un moment donné ou c'est encore très très loin ou c'est pour un futur proche ou pas du tout quoi?
Yeah, very much. So I would oui, love
absolument,
to,
j'adorerais travailler.
It, I mean, it's to my embarrassment that it hasn't happened
et
yet,
c'est un peu une honte pour moi de ne pas avoir travaillé avec des artistes africains. J'écoute beaucoup de musique malienne. J'adore la kora. En tant que joueuse du sitar, c'est incroyable pour moi. J'écoute beaucoup de musique de beaucoup d'artistes différents, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de collaboration, du moins pas encore. Mais ça va se passer.
Bon, il y a 12 ans, on parlait de Buika, je crois. Concha Buika, c'est votre premier lien avec l'Afrique ou pas, Anushka?
Yeah, it is actually.
Oui, c'est la première fois.
I have a burning desire to work with Cora.
J'ai vraiment
beaucoup
envie de travailler avec la Cora et c'est quelque chose, c'est un projet que j'ai. Mais ça, c'était ma première réalisation d'un travail avec une source africaine, avec un musicien africain.
Vous l'avez rencontré? Elle n'est pas venue en studio enregistrer pendant que vous n'étiez pas là.
No, I think that song on the album was a great example of.
Non, je crois que c'est un super exemple de comment les choses peuvent se passer encore à l'ancienne, de façon naturelle. Où il y a des morceaux qui ont été enregistrés comme ça, des gens en Inde ou aux États-Unis, chacun dans son studio séparément. Mais cette chanson-là, on s'est tous assis dans une pièce ensemble. Moi, j'ai eu une idée. Javier l'a traduit en espagnol. On a écrit une chanson. Elle est venue. On a répété une demi-heure et on a enregistré tous ensemble et voilà.
Concha Buika, fort tempérament.
Oh yeah.
Oui. Oh le oh yeah, qu'est-ce qu'il cache ce oh oui. Hein?
I think it's inspiring. I mean, when you see a
je crois que c'est une inspiration quand il y a une femme qui a une telle personnalité, c'est incroyable de voir ça.
Cuando llega la mañana, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido, casi dormido, casi dormido.
Bah vous voyez, Buika, c'était un album, c'était Traveler, l'album que vous avez sorti en 2011. Donc Buika qui est espagnol et qui a de la famille, des ancêtres, une grand-mère ou un grand-père originaire de Guinée équatoriale. Donc déjà, vous nous parliez de Cora il y a 12 ans. Donc c'est quelque chose qui trotte autour de la tête, mais enfin vous faites tellement de choses. Votre vie a beaucoup évolué, vous êtes maman, vous avez deux enfants. Je me demande comment se fait la transmission aussi dans votre famille. Vous avez pris de votre père, est-ce que vous allez donner aussi à vos enfants? Est-ce qu'ils vont vouloir se lancer dans la musique ou ça les intéresse pas du tout?
I'm probably parenting very differently than I was parented.
En tant que mère, je suis un parent très différent. J'enseigne pas tout ça à mes enfants. Ils jouent des instruments, mais qu'ils ont appris auprès d'autres. Moi, j'ambitionne plus d'être leur mère et d'être présente de cette façon-là. Et c'est difficile parce que parfois, je culpabilise un peu. Je me dis que je ne fais pas cet acte de transmission, mais si je devais choisir entre être un gourou et transmettre les choses musicalement, être la meilleure mère que je pourrais être, je choisirais d'être une mère.
Est-ce que vous leur avez dit que la musique avait été créée par les dieux, par Brahma, le créateur, par Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur?
No.
Ils sont pas intéressés.
But they, I mean, that you're moving into like Hindu concepts here, you know.
En fait, ce sont des concepts hindous et bien sûr c'est quelque chose de différent. Mais ils ont une compréhension de notre approche à l'intérieur de la culture dans laquelle j'ai été éduquée et l'apprentissage en général. Ils savent comment on traite les instruments, comment on traite les livres parce que ce sont des symboles ou des vaisseaux de ces choses très précieuses et spirituelles potentiellement. Donc elles ont ça dans leur atmosphère, mais pas forcément de façon très détaillée ou spécifique.
Je me demande comment vous avez arrivé à mettre dans un seul sac toutes les cultures qui vous habitent. Il y a l'Inde, le subcontinent indien, il y a l'Europe, Londres, il y a les États-Unis. Comment on arrive à faire une synthèse?
In some senses, I suppose it makes one quite individualistic.
Je crois qu'on devient assez individualiste parce qu'il faut juste être qui on est personnellement.
But on the flip side, it makes
mais de l'autre côté, on est aussi plus axé sur la communauté. C'est difficile à expliquer, c'est contradictoire, mais c'est comme si on est toujours un peu en dehors des choses. Mais quand on est comme ça, il faut faire plus d'efforts pour construire une communauté où qu'on se trouve. Et donc, j'ai un don pour construire les amitiés, les relations, construire un réseau. Et ensuite, j'ai l'impression d'être chez moi où que je sois. S'il y a des gens autour de moi, j'ai une communauté et peu importe où je me trouve.
Merci Anushka Shankar. Je rappelle que le chapitre 2 qui s'appelle « Comme il fait sombre avant l'aube », je le dis en français, comme ça c'est plus facile. Vous retrouvez vos musiciens, Anushka, donc Presanna Tevaraja qui est aux percussions et Danny King qui cette fois-ci n'est pas au piano mais au violoncelle, sauf erreur. Dancing in Madness, interprété au grand studio par Anushka Shankar. L'original se trouve sur l'album Traveler, qui est sorti en 2011. Et ici, c'était la formule trio pour la session live d'Anushka Shankar. Au son, Mathias Taylor, Benoît Le Tyran, à la traduction, Claire Simon. Merci à Anushka et à ses musiciens que l'on va libérer parce que l'emploi du temps est très chargé. Des problèmes de Rostar. Alors, ce qui me laisse moi un petit peu de temps pour vous présenter la dernière collaboration en date d'Anushka Shankar avec Jacob Collier. C'est ce petit génie britannique des harmonies qui s'est fait connaître sur la toile avec des reprises a cappella de morceaux célèbres. Et après, il a été repéré par Quincy Jones. Donc la carrière est assurée. Jacob Collier sur RFI avec Anushka Shankar au sitar.
I'm on a rock somewhere. It's the only one I know, and I know it well. And somehow I know you're there, and I'm waiting on the world. I'm ringing the old church bell. I've forgotten how it goes, but it feels like hell. I guess you're in heaven now, and you're never coming home. 'Cause even when I'm wide awake, I know that you've been having other dreams for sure. I'm alone, my friend. You left me waiting on the world. I'll be waiting on the world.
Au cours de l'interview d'Anushka Shankar, on a évidemment évoqué Oncle George, à savoir George Harrison, le guitariste des Beatles. Fréquenter Ravi Shankar a été une révélation pour lui et une révolution au sein des Beatles parce que Oncle George a utilisé et composé pour le sitar dans quelques morceaux, ce qui était absolument novateur pour l'époque. Illustration avec le titre Within You, Without You, cet extrait de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sorti en 67.
People
Les musiques du monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez réécouter la session live d'Anushka Shankar, c'est pas très compliqué. Faut aller sur le musique.rfi.fr ou rfi.fr à la page Musique du monde et vous avez l'intégrale. Il y a des vidéos aussi qui tournent sur les réseaux puisque RFI Vidéo est venu filmer la session live. Donc, si vous voulez en prendre plein les mirettes, c'est le moment. Voilà, je crois que c'est fini pour aujourd'hui et on remercie Laurent Salerno pour la réalisation. Au revoir.